lorsque Jésus dit qu'on n'adorera plus sur la montagne ou à Jérusalem, mais en esprit, en vérité, ben là, il touche une part d'un problème important, un problème théologique, finalement, entre les Samaritains et les Juifs. Et puis, en disant juste ça, cela, il annonce quelque chose d'énorme. C'est immense ce qu'il est en train de dire là. Le moment vient où on va quitter une pratique religieuse liée à un lieu précis pour une adoration de cœur à cœur, pour une adoration d'esprit, en esprit, en vérité. Et puis ça, c'est possible que par le Saint-Esprit. Donc, à quelque part, il parle déjà de la Pentecôte à ce moment-là. Il parle déjà qu'il y aura cette effusion de l'Esprit qui va permettre cette relation personnelle avec Dieu, ce cœur à cœur. Hein, puis elle était privée du temple. Hein, elle disait, mais de toute façon, ils ne nous veulent pas. On n'a même pas le droit. Donc, même si elle voulait régler ses péchés, hein, si on veut, elle ne pouvait pas. Puis il dit, mais ce sera fini tout ça. C'est le cœur qui va compter. Waouh! Alors, il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais en fait, en gardant ce focus, dire ben, on est choisi pour impacter le monde, j'aimerais relever trois étapes ou trois impératifs que Jésus lui-même fait au travers de cette rencontre. La première chose qui paraît assez logique, c'est que il faut quitter Jérusalem. Si vous voulez impacter le monde, il faut quitter Jérusalem. Jésus a fait le choix de couper par la Samarie au lieu de contourner la Samarie, ce qui était fait d'habitude, c'était plus long, hein, mais ils ne voulaient pas passer dans la Samarie, normalement, les Juifs. Hein. C'était justement il y avait ce problème d'impureté, il y avait un racisme qui était là, on ne voulait pas avoir affaire avec les Samaritains. Mais lui, il choisit de couper, donc il a fait le choix de venir là pour avoir cette rencontre. C'était une décision osée parce que donc beaucoup de Juifs étaient vraiment opposés aux Samaritains, comme je viens de le dire. Il y avait ce conflit théologique, et puis on disait que les Samaritains, ils avaient adapté les Écritures à leur contexte. Donc pour les Juifs, c'était blasphématoire. C'était pas possible de modifier les Écritures, évidemment. Et puis en plus, la Samarie, c'était une sorte de ghetto, on pourrait dire, dans lequel vivaient des Juifs qui avaient épousé des mariés, des femmes étrangères. Donc, donc c'était un peu tous ceux qui étaient mis à part, qui étaient comme, vraiment traités comme impurs, et puis se retrouvaient là, ils s'étaient mis là. Donc personne ne voulait passer là. Et puis c'est Jésus, lui, oui, Jésus veut passer à cet endroit. Alors, question pour nous, c'est qu'est-ce que signifie quitter Jérusalem? Ça veut dire quoi, quitter ma Jérusalem à moi pour aller impacter le monde? C'est peut-être quitter ce que l'on connaît, c'est sortir de nos quatre murs d'église pour aller. C'est aussi ne pas garder ce qu'on a reçu pour nous-mêmes. Parce que les Juifs, ben voilà, le Messie vient pour les Juifs, puis c'est tout, c'est le nôtre. Puis Jésus vient faire toute la différence. Dire non, je ne suis pas là juste pour vous, je suis là pour le monde. Donc des fois, nous aussi, on veut comme garder un petit peu, puis on ne veut pas aller plus loin. Quitter sa Jérusalem, ça demande du courage d'aller sur un terrain inconnu, sur un endroit où on ne connaît pas, un endroit peut-être qui a mauvaise réputation, comme pour Jésus la Samarie. Et je pense que quitter pour aller plus loin, c'est difficile, en général. C'est quitter notre sécurité, c'est quitter nos repères, c'est sortir nos murs pour suivre Jésus. C'est un peu comme entrer dans Canaan, on en a parlé, on avait notre retraite pastorale hier, on en a parlé de ça, le lieu de la promesse. Lorsque on quitte finalement notre Jérusalem, c'est pour aller plus loin, c'est pour entrer dans la promesse de Dieu, c'est pour entrer là où il nous veut vraiment. Et puis on a vu dans l'histoire du peuple combien ils ont eu de la peine à entrer là où Dieu les voulait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que souvent on oublie, hein, mais il y a cette première fois où ils n'ont pas voulu entrer, puis ensuite ils ont tourné 40 ans dans le désert. Puis après, à nouveau, il y avait trois tribus qui ont dit « Non, non, nous, on veut pas, on veut les terres qui sont là, on ne veut pas entrer. » C'est comme si l'histoire se répétait pour Moïse, il devenait un peu fou. Mais quelle difficulté on a de quitter ce qu'on connaît pour aller là où Dieu veut. Mais la parole, elle affirme que alors que nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous serons témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est certain, Ça ne peut pas se réaliser si on ne choisit pas, à un moment donné, de quitter notre Jérusalem. Et alors que Jésus va en Samarie, l'impact, il est immense. Et en fait, suite à cette rencontre, on ne le voit pas dans l'épisode, mais on lit en Jean 4, 39, 42, « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Donc un grand nombre crurent. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Jésus il a fait ce choix de quitter sa Jérusalem, de quitter la Judée, d'aller en Samarie. Et puis on voit qu'après la Pentecôte, ça se passe aussi. Alors que la persécution est de plus en plus vive, les apôtres, les disciples, ils sont obligés de partir. Hein, c'est comme si même la persécution doit un petit peu les pousser pour quitter leur Jérusalem. Et puis ceux qui travaillent dans ce milieu-là comme... Marc, il voit qu'effectivement, c'est souvent ça. Hein. Alors qu'il y a la persécution fait rage, il y a une ferveur, il y a une foi qui nous oblige encore plus à aller là où Dieu nous veut. Et on peut lire en Actes 8, 14 et 17, « Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. » Donc, à un moment donné, à leur tour, les disciples ils vont quitter leur Jérusalem pour impacter le monde. Puis ça commence par la Samarie, comme ce texte de Actes 1, 8. Hein, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Donc, on ne peut pas espérer impacter le monde sans bouger de chez soi. Même si on a Internet, même si on peut communiquer avec les médias, etc., à un moment donné, ça nous demande de bouger du canapé, c'est sûr. Et puis deuxièmement, pour impacter le monde, ça nous demande de franchir des barrières qui sont souvent sociales, des barrières qui sont religieuses. Et Jésus a donc premièrement quitté Jérusalem, puis il a dû franchir ces barrières lui aussi, des barrières importantes pour répondre aux besoins de cette femme et toucher son cœur. Mais il devait franchir ces barrières. Alors, on a quelques-unes. Déjà, c'était une femme, elle le relève. C'était une femme, puis lui un homme. Et puis déjà, normalement, homme et femme, ils sont séparés. Ils ne s'adressent pas la parole comme Jésus l'a fait dans cette culture-là. Ça ne se faisait pas. Il a dit, j'ai oublié s'il te plaît, c'était pas ça le problème, hein. C'est qu'il ose lui adresser la parole. Et puis c'était une étrangère, une samaritaine, on a compris qu'il y avait ce conflit ouvert, on a compris aussi qu'elle était vue comme une impure, simplement parce qu'elle est samaritaine, au-delà de son péché, au-delà de sa vie, elle était considérée comme impure parce qu'elle était samaritaine, aux yeux des juifs. Et puis il va franchir aussi ça. Et bien sûr, sa situation de vie, on voit bien que ce n'était pas le plan parfait de Dieu. Hein, elle n'avait pas fait tout juste, cette dame. Mais Jésus, là aussi, va la rencontrer. Donc, on voit la réaction des disciples, un petit peu quand ils reviennent, ils sont juste surpris de voir Jésus qui parle à cette femme. Mais il fait quoi? Il fait quoi notre rabbi? Il fait quoi notre maître là? Pourquoi il lui parle? Pourtant, ce n'étaient pas les plus religieux. Eux-mêmes, ils connaissaient bien la loi, mais ils n'avaient pas une pratique très religieuse, ces gars. Mais là, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas faire ça, que Jésus ne devrait pas faire ça. Ils connaissent. Ils savent que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas conforme. Et pour impacter le monde, il faut savoir franchir donc les barrières religieuses et sociales qui nous entourent. Comme lors de la guérison de ce lépreux qu'on avait vu il y a 2 semaines, à un moment donné, Jésus va le toucher, Jésus va le saisir. J'avais dit, Jésus, il n'hésite pas à se salir les mains quelque part. Parce que pour eux, c'était ça. C'était se salir les mains. Et quand on prend la parabole du bon samaritain que Jésus utilise d'une manière extraordinaire pour confondre un peu ses chefs religieux, il dit, celui qui va aller en aide à la victime, c'est un samaritain, déjà, c'est juste justement, c'est ça, ça confond tous les principes religieux. Et puis, ces religieux qui ont passé à côté, ils n'ont rien fait pour cette personne victime. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient pas salir. Ils ne voulaient pas être contaminés. Ils ne voulaient pas être contaminés. Mais Jésus, lui, il va. Il va au contact. Il casse ses barrières. Alors, quelles sont nos barrières ? On se dit peut-être qu'en 2022, il n'y a plus de barrières. Mais détrompez-vous, il y en a pas mal. Si vous prenez juste quelques instants pour réfléchir à vos propres barrières, si vous ne les voyez pas, peut-être que je peux vous aider. Sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous vous rendez compte ? Ils vivent ensemble, ils ne sont même pas encore mariés. Je ne vais pas aller vers cette personne. Vous n'avez pas vu des petites barrières comme ça des fois ? Hein ? On n'est pas un petit peu comme ça ? Puis Jésus va dire quoi ? C'est pour ces gens-là que je suis venu. C'est eux qui ont besoin de moi. Si on n'y va pas, qui c'est qui va y aller ? Il a une autre religion. Il a une autre religion, donc là c'est dangereux. Il ne faut juste pas boire un café avec cette personne. Il a une autre religion. Si je bois un café avec, peut-être que j'aurai un problème. Hein ? Peut-être que je ne suis pas assez solide dans ma foi, je ne sais pas, mais peut-être que je vais me faire contaminer justement. Peut-être qu'il va me convaincre de quelque chose. Je ne sais pas, est-ce qu'on a peur de renier Christ en allant boire un café avec un ami musulman ? Je ne sais pas. C'est une personne d'une autre culture. Mais je ne sais pas quoi faire avec ces gens d'une autre culture, franchement. En plus, ils vivent en Suisse depuis 10 ans, puis ils ont toujours une autre culture. Ils ne pourraient pas être un peu plus suisses, un peu plus intégrés. Moi, je ne peux pas faire cet effort d'aller boire le thé, puis m'asseoir par terre avec eux, quoi. Je ne sais pas, acheter un canapé, il y en a un Conforama, c'est pas cher. Puis qu'est-ce que les gens vont dire s'ils savent que je vais prendre un café avec cet ami-là, cette personne-là ? Si les gens me voient avec une personne comme ça, hein, si je croise des gens de l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont penser. Ils vont croire que j'ai changé de religion. Hein ? Non. Donc on a beaucoup de barrières encore. On en a tellement, on en a trop. Mais pour impacter le monde, il faut parfois passer du conforme à l'audacieux. Il faut lâcher des fois ce qui est conforme, ce qui est politiquement correct. On sait que c'est juste ultimement. On sait que Jésus désire que notre mariage soit comme ça. Mais il ne s'est pas arrêté là. Et nous, on ne doit pas s'arrêter là. On doit franchir ces barrières. Et moi, j'aime beaucoup ce côté audacieux et parfois... Je vais prendre un exemple qui n'est pas en lien avec les relations, mais je trouve extraordinaire dans l'histoire de voir que les hommes et les femmes qui ont fait une différence, qui ont impacté le monde, c'est des gens qui étaient audacieux. Ce n'est pas des gens qui sont restés dans la norme. Ce n'est pas des gens conformes. Et j'ai juste pensé, parce qu'on a été au musée des transports il y a la semaine dernière, là, et puis j'ai juste pensé à Auguste Piccard. Inventeur extraordinaire, la famille Picard en elle-même, il a fait une ascension en ballon dans la stratosphère en 1931. Mais c'était un des premiers à avoir pu observer de ses yeux le globe terrestre. Avec ce truc-là, en 1931. Si vous regardez les voitures et les avions de la même époque, je peux vous dire que tu te dis, c'est un peu fou d'aller à la stratosphère. Hein ? Mais il est sorti de ce qui était du normal, du conforme, et puis pour impacter le monde. Ça fait c'est extraordinaire. Et je me dis, ben nous, c'est la même chose dans les relations. On peut pas être toujours dans la norme, dans ce qui est conforme, si on veut vraiment toucher, si on veut vraiment impacter les gens. Et on sait que la folie de Dieu, la sagesse de Dieu est la folie aux yeux des hommes. Donc, je crois à ça. Je crois qu'on doit un petit peu, des fois, casser ces barrières pour être dans avoir ce cœur audacieux. Pour voir qui est la personne. Parce que si je reste derrière mon cliché du religieux ou de la personne de mauvaise vie, ben je ne vois jamais la personne. J'ai juste un cliché devant moi, j'ai juste un filtre. Mais je ne rencontre jamais la personne dans le cœur à cœur. Et c'est impossible de répondre à la soif de la personne, aux besoins de la personne, si on garde nos ornières, si on garde ses lunettes. Donc Jésus l'a franchi ces obstacles pour répondre à la soif physique, émotionnelle et spirituelle de cette femme. Et puis donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui offrir de l'eau. Hein? Toute personne qui boit cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis ces versets sont repris, en fait cette offre de Jésus, elle est reprise, il redonne cette offre en Jean 7, alors que c'est une grande fête. Il dit, le dernier jour de la grande fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. En fait, en lui offrant cette eau, il lui offre cette communion, il lui offre l'Esprit, il lui offre cette vie qui va la conduire jusque dans la vie éternelle. Il n'y a rien qui peut humainement donner ça. Et je crois qu'il y a des grandes Pentecôtes. Je crois qu'on peut recevoir un baptême de l'Esprit, de feu qui transforme notre vie. Je l'ai vécu, c'est extraordinaire. Et je prie encore ce matin que vous soyez renouvelés dans l'Esprit. Mais je crois aussi qu'il y a comme des micro-Pentecôtes. Je crois qu'alors que vous franchissez les barrières, je crois qu'alors que vous quittez votre Jérusalem, vous pouvez rencontrer quelqu'un au puits. Je crois que vous pourrez rencontrer quelqu'un à la Migros, à la COP, dans un café, peu importe l'endroit. Mais je crois que vous pouvez, vous qui êtes rempli de l'Esprit, transmettre cela. Dire, mais moi je peux te donner ce que j'ai reçu. Je peux te donner cette eau vive. Et c'est ces micro-Pentecôtes qui vont faire la différence. C'est une personne à la fois qu'on va impacter le monde. Quelle est cette personne pour vous? Quelle est cette personne que vous allez rencontrer au puits? Demain, dans votre semaine. C'est ça qui va faire la différence. Des fois, on aimerait bien le mouvement de masse, quoi. On aimerait bien pouvoir juste prêcher pour une foule et puis tac, tout est réglé. Tout le monde baptisé de l'Esprit, ils ont tout compris, c'est génial. Mais la réalité, c'est que ça se passe un par un. Une rencontre après l'autre. Une micro-Pentecôte après une micro Pentecôte. On a des interférences orageuses. Je ne sais pas où est parti mon PowerPoint. Mais bon. On fera ça. Exact. La troisième chose, j'ai parlé de trois choses, on est bientôt au bout. D'accord. Vous vous souvenez de la première, quitter sa Jérusalem, franchir les barrières. Et puis la troisième chose, c'est proclamer qui est Jésus. Parce que cette rencontre, elle a un réel impact, et on le voit très bien dans ce petit exprès, au moment où Jésus révèle qui il est. Il se présente. Oui, tu l'as dit. C'est moi le Messie. C'est moi qui te parle. Elle savait ce que ça signifiait. Et puis il venait même de lui prouver par cette parole de connaissance qu'il était bien le Messie. Mais elle l'attendait, hein. Il y avait une attente. Elle dit, ah mais je sais que quand le Messie va venir, ça va changer, même pour moi. Et puis on voit à la fin, donc, comme je l'ai lu déjà, nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Les autres Samaritains ont compris qui il était. Donc la différence, c'est toujours ça, c'est qui est Jésus. On ne peut pas quitter notre Jérusalem, franchir des barrières, si à un moment donné, on ne présente pas Jésus. Le monde commence à changer, les vies sont transformées lorsqu'elles rencontrent le Christ, le Messie. Puis parfois, je me dis, on est un petit peu ambivalent. On arrive à faire la rencontre, mais on ne veut pas trop présenter le Christ. Ouais, on a des bonnes valeurs. À un moment donné, il faut montrer qui est Christ. Il est le Messie, le Sauveur. C'est notre travail, c'est d'annoncer le Christ. Dire qui il est, démontrer, bien sûr, on peut démontrer qui il est par nos actes, par nos paroles, par notre manière de vivre, ça je suis complètement d'accord. Mais c'est encore aujourd'hui le moment, c'est encore maintenant l'heure pour dire qui est Christ. Puis il y a ce verset, du coup je ne l'ai pas à l'écran, de Romains 10 qui m'est revenu très fort. Romains 10, 13 et 15. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? On a parlé du rêve la semaine dernière. Moi, je rêve que nous soyons une église d'envoi. Je rêve qu'à peu près chaque dimanche, je puisse vous envoyer sur votre champ de mission. Ce serait juste extraordinaire, non? Hors de votre Jérusalem, prêt à franchir les obstacles pour proclamer qui est le Christ. Ça, c'est l'Église. Et puis certains disent, ah, je trouve qu'il manque un peu de témoignage des fois le dimanche. Ben, je vous dis que si on est envoyé dans notre semaine, si on franchit ces barrières, hein, si on quitte notre Jérusalem, des témoignages, il va y en avoir. Hein, puis le dimanche, ça pourrait être un temps de rassemblement où oui, on est équipé, oui, on est encouragé, mais oui, où on témoigne de ce que Christ a fait. On a été témoin de la puissance de Dieu au travers de nous, bien sûr. Nous qui sommes faibles, nous qui sommes imparfaits, faillibles. Mais ce serait juste extraordinaire, non? Vous n'avez pas envie un peu? Alléluia! Alors, lors de la Pentecôte, c'est important de se rappeler que ce n'est pas juste pour nous que le Saint-Esprit est descendu. Hein. C'est pour être à nos côtés, en nous, mais pour faire des œuvres plus grandes encore que celles de Christ. C'est pour être disciple, témoin de sa puissance et pour impacter le monde. Alors, il y a des opportunités, je conclue avec ça, des opportunités tous les jours, j'en suis convaincu. Des opportunités simples, spontanées, naturelles, qu'on peut juste saisir. On a besoin d'avoir ce sentiment, de dire, ben oui, je suis envoyé. Je suis vraiment envoyé, choisi pour impacter le monde. Et puis, à l'écoute du Saint-Esprit en nous. C'est possible d'avoir des rencontres au puits. Et moi, je vois souvent cela, que c'est une question de disponibilité. Je vois plein de fois où je pourrais passer à côté de ce que le Saint-Esprit me montre, parce que je suis dans mon truc. Puis quand je m'ouvre un peu, puis je dis, oh, c'est bon là, t'as fait assez de bureau là, il faut sortir un peu. Hein? Puis hop, je connecte. Oui, Seigneur, je suis en mission pour toi. Mon cœur, c'est d'être en relation avec les gens. Ben, je vous dis, c'est juste extraordinaire. J'avais vécu encore une très forte rencontre juste derrière là. Non, je me promenais là. Extraordinaire. Discussion, je sais pas, c'est comme si Dieu montrait ce gars qui avait besoin de réponses. Ou en tout cas qui se posait des questions, puis on a pu parler, c'était juste fort. Mais ça demande un coup de dire, ok Seigneur, maintenant c'est toi que j'écoute, je veux être à ton service, je suis envoyé. Bien sûr, il y a aussi des peuples lointains qui attendent encore le message de l'Évangile. Et Raphaël nous en touchera un petit mot juste à la fin de ce culte. Et puis il y a aussi des moments qui sont plus organisés. Hein, il y a ces moments informels où on y va comme ça, puis il y a des moments plus organisés pour nous aider à sortir de notre Jérusalem. Puis là, je pense à The Turning. Vous avez déjà entendu ça, c'était déjà eu deux fois que ça a eu lieu. C'est une semaine en automne où les églises de Suisse romande, eh ben, elles se mettent ensemble, elles s'unissent, pour non pas pour semer, mais pour récolter la moisson qui est prête. Et ils ont vécu, il y a des témoignages juste extraordinaires, en disant, en fait, nous, on est souvent en mode, ah, il faut semer, il faut semer, il faut semer, mais en fait, il y a des gens qui sont prêts à recevoir Jésus. Ils sont prêts, ils attendent. Mais comment sauront-ils si personne ne leur parle? Donc il y a des temps de prière, de louange, de préparation un peu le soir et puis la journée, le matin, eh ben, les gens vont dans la rue et il y a vraiment des petits réveils qui se passent de région en région. Alors ça, vous pouvez déjà noter, c'est la première semaine des vacances d'octobre. Vraiment, on vous encourage à le vivre. Et puis, Et puis j'aimerais juste encore terminer en disant que, ben oui, cette série, peut-être qu'elle nous bouscule un petit peu, ou moi j'espère qu'elle vous fait envie de suivre Jésus. Peut-être qu'on avait besoin de retourner à juste Christ, juste Jésus. Cette simplicité où tu dis, waouh, c'est lui qui m'a appelé à le suivre. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de le suivre, ce n'est pas toujours un chemin facile, ce n'est pas toujours aussi facile de saisir, de comprendre des fois ce qu'il attend de nous. Mais je prie ce matin que vous puissiez vraiment dire, mais oui, je suis prêt. Je désire être envoyé, je désire quitter ma chaise, quitter mon canapé, quitter ma Jérusalem pour franchir ces barrières, être audacieux pour Jésus et puis proclamer qui est Christ.